Sud Radio, le livre du dimanche.
Le livre du dimanche qui est signé de notre invité Bruno Fulini, historien et essayiste. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous publiez ce charmant livre qu'il est temps de réviser d'ailleurs à l'heure de la présidentielle. Petit dictionnaire des injures politiques. C'est publié aux éditions du Rocher. Une anthologie d'ailleurs par hommes politiques ciblés, c'est important, dans l'ordre alphabétique, de toutes les meilleures ou les plus frappantes ou parfois même les plus violentes injures politiques qu'ils ont pu recevoir. Le moins qu'on puisse dire, Bruno Fulini, c'est que la langue française est d'une richesse absolue, surtout quand on parle politique.
Oui, c'est-à-dire que les mots étant des armes, en politique,
tout particulièrement... Rapprochez-vous bien du micro.
Les mots étant des armes, surtout en politique, eh bien, les hommes politiques, les éditorialistes, les pamphlétaires ont fait preuve d'un véritable génie pour traîner dans la boue l'adversaire, de la pire grossièreté au mot d'esprit le plus subtil. Et bon, nous sommes une équipe de 19 auteurs, des historiens, des journalistes, pour rassembler les injures politiques de 1789 à la campagne présidentielle en cours. Nous avons classé donc les insultes par ordre alphabétique, et à la fin il y a un index des insulteurs, donc vous pouvez retrouver toutes les injures proférées par un même homme politique.
Et il arrive d'ailleurs que le plus insulté soit aussi parmi les plus insulteurs, ça marche aussi dans les deux sens.
Ça arrive quelquefois, c'est pas le plus courant. Les grands insultés comme Jean Jaurès, oui. Léon Blum, Aristide Briand, on peut insulter eux-mêmes, mais on en a quelques-uns comme François Mitterrand, De Gaulle ou Clémenceau qui savaient répondre.
Clémenceau, fabuleux. On découvre aussi par moments les surnoms de personnes qu'on croyait complètement sacrées. Charles de Gaulle, par exemple, qui sait aujourd'hui qu'on l'a surnommé le général Micro, Charlot, la Grande Zora. Pourquoi la Grande Zora ?
C'est une référence à l'Algérie, bien sûr.
Incroyable.
Alors que le général Micro, c'est sous l'occupation, c'est les pétainistes.
C'était les pétainistes, exactement, d'ailleurs, qui faisaient référence à cet appel du 18 juin, mise en scène d'ailleurs, dont la mise en scène a été reprise par le récent discours d'Éric Zemmour. Parlons de Clémenceau, c'est peut-être un des plus éloquents quand même.
Oui.
Le président du Conseil, qui est un des plus éloquents. Je me souviens notamment, lui qui avait des problèmes de santé à la fin de sa vie, qui écoute une personne extrêmement bavarde et qui se demande « Ah, si seulement il parlait comme je pisse », disait Clémenceau, c'était quand même une autre époque.
Oui, c'est quelqu'un qui, tout en ayant une formation de médecin, est un humaniste complet, qui a beaucoup lu, qui a passé sa vie à écrire et parfois à écrire des horreurs. Par exemple, en 1899, le président de la République, Félix Faure, meurt dans les conditions que l'on sait. Il écrit « Félix Faure vient de mourir, cela ne fait pas un homme de moins en France ». Vous imaginez, en toutes lettres, dans l'aurore, le lendemain de la mort du chef de l'État.
C'est une violence.
C'est très violent. Et il aurait dit également, mais oralement, « En entrant dans le néant, il a dû se sentir chez lui ». C'est sans doute la plus belle de toutes les injures politiques, parce qu'elle est cinglante, on ne s'en relève pas.
Elle est élégante, elle est cinglante. On se rappelle aussi cette autre jeu de mots. Hein. Il a vécu César, il est mort Pompée, Félix Faure, mort en galante compagnie en plein pendant l'acte. Charles de Gaulle, mauvaise langue. Parlons aussi quand même de toute l'extrême droite des années 30, à l'époque des Ligues, à l'époque de l'Action française. Charles Maurras, on a aussi Léon Daudet, avec une qualité de langage et en même temps une violence dans le propos qui est absolument exceptionnelle.
Oui, parce que Léon Daudet se situait un petit peu, se revendiquait la paternité de Rabelais, donc il pouvait être à la fois très précieux et très trivial dans une même phrase. Donc il maniait l'injure scatologique, traitant Aristide Briand d'excrément, par exemple. Sur Léon Blum, il s'est littéralement acharné, le traitant de belette foireuse, de lévrier hébreu, d'Adonis hébreu.
Enfin... Avec des références évidemment antisémites importante, puisque c'était l'époque aussi où l'antisémitisme était complètement décomplexé. Hein.
On n'allait pas devant les tribunaux, il n'y avait pas de législation. C'est-à-dire qu'on était sous le registre d'une liberté de la presse intégrale, et même l'affaire Salingro, c'est-à-dire à un moment où le ministre de l'Intérieur du Front Populaire a été tellement traîné dans la boue qu'il a fini par se suicider, même cette affaire n'a pas fait évoluer la législation. C'est après la guerre, quand certains appels au meurtre se sont concrétisés, qu'on a commencé à pénaliser beaucoup plus et à aller davantage devant les tribunaux. Et du coup, le côté pamphlétaire de l'injure politique a un petit peu reculé et nous sommes plus allés vers des pics, des attaques plus tout aussi méchantes, mais moins violentes.
Moins violentes, mais c'est vrai que l'injure publique est une qualification pénale. Aujourd'hui, malgré tout, on peut revenir à des époques très récentes. On se souvient tous de Jacques Chirac, il avait un talent inédit. Jacques Chirac aussi, pour l'injure politique.
Il savait se défendre, il avait un certain sens de la répartie aussi. Effectivement, mort au con, enchanté, moi c'est Jacques Chirac, ce genre de choses.
C'est ça, quand il se fait traiter de connard, qu'il arrive et qu'il répond enchanté, moi c'est Jacques Chirac, ça restera aussi comme un exemple de répartie absolument exceptionnelle. Michel Noir aussi, qu'on peut retrouver, ancien député qui était assez visé. Michel Noir s'est surtout signalé au gouvernement par ses gaffes politiques et la médiocrité de sa prestation ministérielle à l'école. Il serait sur les bancs des redoublants, grand dadé, un peu niais, tout près du radiateur. Hector Roland, souvenir dérangeant d'un godillot indiscipliné. C'est quand même... on a beaucoup de mépris, en fin de compte, sur ces hommes politiques. C'est surtout, c'est plutôt la caractéristique qui revient le plus souvent dans ces injures.
De toute façon, l'injure, elle vise à vous déprécier. Elle vise à vous déshumaniser. Alors, soit on vous animalise, on vous compare à un crapaud, une grenouille, un caméléon ou un mille-pattes si vous changez de parti. On vous corporalise, vous devenez un ventre, un pied. On vous réifie, vous devenez un objet, une girouette, un bonnet. Ou alors, on déprécie vos mobiles. Vous n'avez plus d'idées ou d'idéaux. Vous êtes à la solde, alors soit de l'URSS, soit d'Israël, soit de l'Angleterre. Chaque fois que Clémenceau prenait la parole, ses adversaires scandaient « Ah oh yes, ah oh yes !» pour dire que pour nous, il est à la solde de l'Angleterre.
C'est ça, puisqu'il était le partisan de l'entente cordiale. L'Assemblée refuse la parole à M. Victor Hugo parce qu'il ne parle pas français. C'est Hippolyte, vicomte de Lorgeril, qui prononce cette outrecuidance en pleine Assemblée nationale. Victor Hugo ne parle pas français.
Il faut savoir que Hippolyte de Lorgeril, député royaliste, était aussi un poète raté. Donc il était très jaloux, je pense, de Victor Hugo. Et il a lancé cette phrase qui figure au journal officiel. Victor Hugo ne parle pas français.
Bon. C'est très important quand même. On a déjà traduit devant les tribunaux des gens qui tenaient pareil langage. J'aime beaucoup cette phrase, malgré tout. Et après tout, c'est vrai que depuis, à notre époque, on traduit systématiquement devant les tribunaux tous les gens que vous avez cités, ou presque, dans votre ouvrage, pour ce qu'ils ont pu dire. Vous revenez aussi à la Révolution, Louis XVI notamment. Qu'est-ce qu'il en a reçu? Vous revenez à Napoléon, insultant Corse. Qu'est Colione, mais quel couillon Napoléon qui parle de Louis XVI. Comment a-t-il pu laisser entrer cette canaille? Il fallait en balayer 400 ou 500 avec du canon et le reste courait encore. La violence de l'époque préhistorique.
C'est l'artilleur qui parle là.
C'est l'artilleur
mais
Napoléon.
Il se projette déjà à la tête de l'État à ce moment-là. L'artilleur j'aurais réglé la crise autrement. Dans la Révolution française, il y a aussi des mots d'esprit assez extraordinaires d'hommes qui ont été formés aux classiques et à la lecture des grands écrivains des Lumières. Je pense par exemple à ce moment où Mirabeau s'élance tout sourire vers Talleyrand qui lui répond à froid « Ne m'embrassez pas, vous allez m'enfermer dans un cercle vicieux. » C'est magnifique.
C'est magnifique ça. Embrasser au sens physique du terme. On peut revenir aussi sur les scandales qui sont toujours aussi prolifiques en insultes. Le ministre notamment, le ministre qui n'avait pas payé ses impôts sous François Hollande. Emmanuel Macron en a reçu énormément. Je veux bien qu'il soit en marche. Déjà, il va être en marche pour aller payer ses impôts, si j'ai bien compris. C'était Luc Carvounas, le socialiste, qui parlait de lui. Il a eu de la chance, d'ailleurs, d'échapper à une attaque là-dessus. Gérard Filoche, le socialiste très à gauche. Je ne vois aucun avenir dans cette démarche en marche. C'est un peu du cirque. C'est pas des choses sérieuses. C'est quand même le gars qui est depuis 4 ans conseiller à l'Élysée, puis au ministère de l'Économie. C'est 1,3 million de chômeurs en plus qu'ils viennent pas nous dire qu'il est neuf. Ça fait 4 ans qu'il s'use en nous usant. On est presque dans une forme de déclin, a-t-on l'impression, malgré tout, sur les injures politiques.
Oui, parce qu'aujourd'hui, l'injure est beaucoup moins payante. D'ailleurs, Emmanuel Macron a été beaucoup insulté, mais lui n'insulte pas. J'ai cherché désespérément des attaques violentes de sa part contre des adversaires politiques, et en fait, il n'y en a pas. Les hommes politiques sérieux, aujourd'hui, évitent justement le ton pamphlétaire, parce qu'en fait, ça se retourne contre l'insulteur. Aujourd'hui,
on est devenu plus... on est devenu finalement plus chatouilleux.
Oui, et puis on aime bien les victimes. Donc quelqu'un qui est insulté, eh bien, va se draper dans sa dignité et va soit saisir les tribunaux, soit en appeler au tribunal de l'opinion via les médias si l'injure est trop violente. C'est-à-dire que nous n'avons plus cette espèce de jubilation qu'avaient nos grands-pères devant la lecture d'un pamphlet, au contraire.
Et vous dites nos grands-pères, à dessein d'ailleurs, parce que quand on regarde ce dictionnaire, ce petit dictionnaire des injures politiques, 99,99% étaient des hommes, notamment dans cette période. Il faut quand même le souligner. On restera aussi avec les communistes. J'aime beaucoup cette citation de Georges Marchais. Je ne sais pas si les électeurs communistes prendraient encore Mitterrand en autostop. C'est simple, c'est efficace. Et en même temps, on a l'image. On reste aussi sur, on en parlait avant que vous fassiez votre entrée dans le studio, sur cette image légendaire laissée de François Hollande. Le capitaine
de pédalo, insulte lancée par Jean-Luc Mélenchon. Et ça nous montre qu'une bonne injure, c'est aussi une image. Mmh. Le capitaine de pédalo dans la tempête, on voit en fait le pédalo avec François Hollande dessus et sa petite casquette au milieu des vagues. Voilà. C'est ça une injure réussie, c'est une image très efficace et dont on ne se relève pas.
La violence finalement qui recule d'une certaine manière dans ce pays, malgré tout, la violence verbale, on peut aussi en retenir cette conclusion. Merci beaucoup Bruno Fuligny d'être intervenu sur Sud Radio et d'avoir réédité justement pour 2022 ce petit dictionnaire des injures politiques aux éditions du Rocher, nous avoir permis aussi de nous cultiver, ou plutôt de nous recultiver. Vous écoutez Le Grand Matin Week-end sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 10h, il est 9h51.